Bonsoir à tous. Donc, quatrième et dernier message dans notre étude sur le travail. Le titre de ce message, donc, c'est « Tu feras du sabbat tes délices », donc qui est tiré de un fameux verset de Ésaïe que je lis pour vous, Ésaïe 58, 13. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Donc effectivement, je vais peut-être un peu résumer, il y a peut-être quelques-uns parmi nous qui n'étaient pas là, et puis essayer de nous rappeler un peu ce qu'on a vu dans les trois premiers messages. Au moins le frère Ebi n'était pas avec nous. Et pour les autres, ce sera une révision utile. Donc effectivement, la question, le thème de ce séminaire, c'était mon travail, donc surtout au sens de mon travail séculier, enfin mon travail professionnel, est-il une perte de temps pour le Seigneur? Et donc j'avais fait la réflexion effectivement que peut-être pour beaucoup de chrétiens, ce travail séculier est un peu une sorte de zone grise. Et on ne sait pas trop bien si c'est quelque chose qui est utile pour le Seigneur, on ne sait pas trop bien comment le Seigneur le voit en fait. On s'est rendu compte que effectivement il y a dans le travail un élément de malédiction qui vient de la chute. Le travail est pénible, ingrat. Le travail est aussi un terrain d'oppression des hommes. Il y a effectivement beaucoup d'oppression dans le travail. Et puis on a vu aussi que le travail sans Dieu, finalement, il y a un sentiment de futilité. On se demande bien à quoi ça sert en dehors de gagner sa vie. Mais on a vu aussi que le travail existait avant la chute. Et donc que le travail en soi est parfaitement bon, puisqu'il a été créé par Dieu avant la chute. Mais que ces problèmes qu'on a dans le travail, eh bien en fait, cette malédiction du travail, elle vient de la chute. Mais nous avons vu que le salut restaure notre relation avec Dieu et nous permet d'inscrire le travail dans le but que Dieu a prévu. Et donc on a vu deux aspects dans un sens divin du travail. Premier aspect, dominer sur la création, et deuxième aspect, l'aspect de vocation. Donc dominer sur la création pour l'assujettir et la faire fructifier. On a vu que, contrairement à la pensée ambiante, c'est pas la nature qui domine sur l'homme. L'homme n'est pas une sorte de résultat de l'évolution et un accident de la nature comme les animaux ou les fleurs. Mais l'homme domine sur la nature, elle lui a été donnée, il y a un mandat qui lui a été donné par Dieu de la dominer et de l'assujettir. Et puis ensuite on a vu une deuxième chose, c'est que d'un point de vue chrétien, le travail doit être compris comme une vocation, et que Dieu nous appelle dans notre travail, comme il appelle des frères pour le ministère, ou des sœurs dans différents ministères. Il nous appelle aussi dans notre travail non spirituel. Et donc, c'est une vocation, ce qu'on a appelé donc une vocation, c'est-à-dire un appel. Et d'ailleurs, on retrouve le mot dans la langue française. On a vu que Dieu utilise notre travail pour bénir le monde. Hein. Quand on fait la prière du Seigneur et qu'on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », eh bien, le Seigneur exauce cette prière non pas par un miracle, bien qu'il puisse le faire comme il l'avait fait dans le désert avec le peuple d'Israël, mais il l'exauce par l'intermédiaire de l'agriculteur qui plante du blé, le boulanger qui fait du pain. Et de même, toutes les prières qu'on fait quand on demande la santé pour des personnes, bah souvent le Seigneur il va les exaucer par des médecins. Quand on demande la protection, il va le faire par des policiers. Il va aussi nous apporter la connaissance de la parole de Dieu par l'enseignement des pasteurs. Donc Dieu utilise tous les travaux des hommes pour bénir le monde. Et donc, dans ce sens-là que Luther disait que le travail humain, notre vocation est le masque de Dieu. En fait, derrière nous, dans notre vocation, il y a Dieu qui agit pour bénir le monde. On a vu que le sens ultime de notre vocation, c'est de servir notre prochain. Et qu'effectivement, c'est un critère clé pour savoir si le travail qu'on fait est un bon travail, c'est est-ce que je peux par mon travail servir mon prochain, on a vu qu'il y a des travaux, des métiers qui, même s'ils sont légaux sur le plan de la loi dans notre pays, mais effectivement ne servent pas notre prochain. Et ils ne permettent pas de lui faire du bien et même parfois contribuent plutôt à le détruire. On a parlé de l'alcool, de l'immoralité, industrie du jeu, des choses comme ça. Mais il y a des choses peut-être plus qui vous viennent à l'esprit. On a vu également, donc, sur le plan de l'éthique du travail, on a vu trois choses que la Bible nous donne, en fait, des instructions en ce qui concerne la quantité de travail et le concept d'industrie. C'est-à-dire le chrétien doit travailler, doit être un homme actif qui se donne à son travail. On a vu la qualité de travail, des instructions concernant la qualité de travail, le concept d'excellence. Donc le travail qu'on fait, il n'est pas seulement important en quantité, mais il doit être de grande qualité. Nous devons chercher l'excellence, comme Jésus certainement recherchait l'excellence lorsque lui, il était charpentier. On a parlé du rapport entre travail et l'argent, et le fait que, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on peut dire travailler plus pour gagner plus? On a dit oui, mais gagner plus pour donner plus. Donc il y a aussi un aspect, on peut travailler, on peut bien gagner sa vie, c'est pas mal en soi. Ce qui est mal en soi, c'est la cupidité, c'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Mais si quelqu'un gagne beaucoup, alors qu'il donne beaucoup aussi, car l'Église a besoin de gens qui donnent. On a parlé des relations de travail, donc d'abord avec l'employeur, qui devait être caractérisé par la soumission, et avec nos collègues, qui devaient être caractérisés par la grâce. Mais il y a un sujet, donc, on a effleuré, c'est le sujet du repos, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Et si on parle de travail, il faut aussi parler de repos. Hein. Et d'ailleurs, la Bible, elle en parle du repos, puisque le texte clé de notre séminaire se trouve dans Exode 20, où je lis ici pour vous le quatrième des 10 commandements, qui est un commandement d'abord sur le repos, finalement. « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc on va d'abord parler, évidemment on va passer pas mal de temps à parler du repos dans le cadre du sabbat, mais on va parler aussi d'abord du repos en dehors du sabbat. Parce qu'en fait, donc la parole nous dit que tu travailleras 6 jours. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en dehors du 7e jour, on doit tout le temps travailler? Et comment doit-on réagir au fait que dans notre société, on a des congés payés et puis qu'on a une retraite? Donc il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, on a vu que le travail ne doit pas être limité au travail rémunéré. Hein? On a vu qu'on passe notre temps à un ensemble d'obligations. Par exemple, faire les courses, faire à manger, faire le ménage, aller chez le médecin, remplir nos feuilles d'impôt, toutes des choses qui sont des choses bonnes, hein, qu'il faut faire. C'est pas nécessairement de l'amusement. On a vu également que dans la vie, on a plusieurs vocations. On a une vocation professionnelle, mais on a une vocation d'épouse, une vocation d'époux, une vocation d'enfant, une vocation de citoyen, et toutes ces choses-là aussi, évidemment, une vocation de chrétien, toutes ces choses-là nécessitent du temps. Et c'est en quelque sorte du travail, même si c'est pas rémunéré. C'est pas vu comme du travail dans le monde, mais par exemple, élever ses enfants, c'est quelque chose de très important, et qui est donc en quelque sorte un travail. On a vu notamment la femme de Proverbe 31 qui, sans avoir aucune activité professionnelle, est une femme extrêmement industrieuse et active. Alors, ensuite, quelqu'un dira, d'accord, tout ça c'est très bien, mais est-ce qu'on a le droit de se détendre? C'est la vraie question, c'est ok, là tu es en train de dire qu'il y a le travail professionnel, ensuite on doit être très sérieux le samedi et le soir à faire des choses importantes et utiles pour la société, mais est-ce qu'on a le droit de s'amuser, de se détendre, de passer du temps entre amis, de regarder un bon film? Donc des loisirs en quelque sorte. Alors, je dirais que la Bible ne répond pas directement à ça, mais elle nous donne plusieurs pistes. Première piste, c'est une chose que la Bible condamne, c'est l'oisiveté. L'oisiveté, on l'a vu, est condamnée. Et si par loisir, on entend de s'affaler devant la télé ou devant la console de jeux vidéo, je pense que là-dessus, le message de la Bible est assez clair. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour ça. Mais en revanche, la Bible, il y a tout à fait dans la Bible une place pour le repos, en particulier le repos du travailleur. Ecclésiaste 5.11 dit que le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Et puis, Jésus, lors de la tempête, il était endormi. sur le bateau, tellement endormi, tellement profondément, qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait une tempête. Et en Jean 4, on voit qu'il était fatigué et qu'il s'est arrêté pour se reposer, que la femme samaritaine donc, est venue à ce moment-là puiser de l'eau. On voit aussi qu'il est avec ses disciples à un moment, ils reviennent, les 70, ils reviennent de leur mission, et Jésus leur dit en Marc 6, 31, « Venez à l'écart, vous reposez un peu. » Donc le repos, c'est un élément naturel de la vie du travailleur, et pas seulement le repos de sabbat. Mais les loisirs, c'est pas seulement le sommeil, ou c'est pas seulement le repos pour retrouver ses forces. Il y a aussi dans les loisirs une dimension sociale qui est importante, en fait. Et on va se rendre compte que c'est aussi important dans la Bible. Moi, personnellement, j'étais élevé dans une famille nombreuse de 5 enfants, et quand j'étais enfant, mes loisirs se passaient la plus grande partie du temps en famille, avec mes parents, avec mes frères, avec ma sœur. Et c'était des moments dont j'ai un grand souvenir, un très beau souvenir, des profonds moments de détente et de bien-être. Et puis Jésus, lui, on le voit dans les évangiles, il est très souvent avec plein de gens, et en particulier en train de prendre le repas. Il est en train de prendre le repas. On le voit qu'il est plusieurs fois chez Marthe et Marie. D'ailleurs, il explique à Marie qu'elle travaille trop et que Marthe a pris la meilleure place. En s'arrêtant pour l'écouter, il dîne chez Matthieu. Il dîne chez des pharisiens. Il dîne avec ses disciples, évidemment, la veille de la crucifixion. Et lorsque le fils prodigue revient, son père lui fait un grand repas. Donc il y a cet aspect, en particulier autour du repas, un aspect social de détente qui est béni dans la Bible. Alors qu'est-ce qu'il en est des autres loisirs? En général, les arts, le sport. On n'a pas beaucoup de références à ça dans la Bible. Ceci étant dit, donc, un des auteurs dont je me suis inspiré pour cette étude, Leland Ryken, il remarque que Dieu n'a pas fait le monde en noir et blanc, mais qu'il a fait le monde avec des belles couleurs. Il a fait un monde très beau. Et il a aussi fait le chant des oiseaux qui est magnifique, il a fait la musique. Il a aussi fait des langues humaines qui sont très belles. Comment ne pas s'émerveiller devant des belles compositions musicales? Comment ne pas s'émerveiller devant la poésie? Il y a la poésie dans les cantiques chrétiens, mais aussi de la poésie dans la poésie profane. Moi, je pense par exemple à Victor Hugo, qui est un magnifique poète français. Quand on entend ses compositions, c'est très beau à écouter. On a parlé de Jean de La Fontaine l'autre jour. Et il y a effectivement une beauté, quelque chose d'élevé dans la musique, dans la littérature. Il peut y avoir quelque chose d'élevé dans la musique, dans la littérature, dans la peinture. Donc ces choses-là sont en elles-mêmes tout à fait compatibles avec la vie devant Dieu. Hein. Donc je pense que c'est un aspect aussi effectivement des loisirs qui est tout à fait valable. En ce qui concerne le sport, on ne va pas beaucoup parler de sport dans la Bible, mais on voit que la vigueur physique n'est pas décriée. Hein. On voit notamment dans le Saint-Testament, il met en scène des hommes qui sont vigoureux, endurants, courageux. Et puis évidemment, les sports contribuent aussi à la bonne santé. Donc je pense que là, même s'il n'y a pas d'enseignement extrêmement clair de la Bible là-dessus, là aussi, on n'a pas d'interdit de la Bible sur ces choses-là. Je crois que les loisirs sont limités par plusieurs choses. D'abord, il y a la fidélité à nos vocations, vocations professionnelles, mais vocations familiales. Donc si nos loisirs sont tels qu'ils empiètent sur ces choses-là, on a un problème, en particulier s'ils empiètent sur la famille. Hein, on connaît tous des gens qui passent trop de temps au sport et qui délaissent leur famille. Et puis, ce qu'on doit faire aussi doit glorifier le Seigneur. On doit avoir ça à l'esprit, ce qu'on fait doit glorifier le Seigneur. Même si on est libre, la parole nous dit qu'on est libre, on a déjà vu ça, Paul nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas ». C'est à nous d'exercer notre liberté chrétienne, mais il y a des musiques que j'écouterai pas, des films que je n'irai pas voir, des activités que je ne ferai pas. Hein, je pense que chacun d'entre nous doit exercer sa liberté, le renouvellement de l'intelligence, et se poser la question « Est-ce que cette chose-là est une chose qui est bonne à faire ?» Le frère l'autre jour disait « Est-ce que je pourrais faire ça avec Jésus ?» Donc il y a, je pense, la Bible n'est pas quelque chose qui détermine exactement tout ce qu'on doit faire. C'est pas un code, mais elle nous indique, elle nous donne des clés. Puis on a l'esprit en nous qui nous éclaire sur ce qu'on fait. Et puis évidemment, il y a une autre limite à ces loisirs-là, c'est le loisir suprême que donc la Bible appelle le repos de sabbat, que les Juifs pratiquaient le samedi, et dont l'équivalent chrétien est le dimanche, et donc on va maintenant passer un petit peu de temps là-dessus. Alors, D'abord, il y a un ensemble d'oppositions. Je vais regarder un peu ces oppositions. Il y a un ensemble, quand vous dites « je respecte », alors j'utilise le mot « le repos de sabbat », parce que c'est peut-être pas beaucoup utilisé dans la langue française, mais les anglo-saxons, par exemple, ils vont utiliser ce langage-là. Ils parlent du sabbat, en fait, en parlant de dimanche, hein, clairement. Donc c'est un terme, le repos de sabbat. Et d'ailleurs, j'ai lu le verset d'Ésaïe 58. Bon, typiquement, c'est le sabbat, donc c'est le dimanche. Et donc, il y a tout un ensemble d'oppositions quand vous allez dire « je respecte le dimanche ». Vous allez rencontrer pas mal des chrétiens qui vont dresser un ensemble d'oppositions en disant que c'est pas une chose que nous devons faire. Alors, première opposition, certains diront, ils font une réflexion générale, ils diront « nous sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce ». Et donc, insister sur l'observance de la loi ou d'une partie de la loi, telle qu'elle était exprimée dans l'Ancien Testament, c'est une totale incompréhension de la liberté qu'on a en Christ. Donc ils vont dire, la loi ne s'impose pas à nous, le sabbat en fait partie, et donc on est chrétien, on ne doit pas respecter le sabbat, et ils feront souvent la même réflexion sur la, en ce qui concerne la dîme, en particulier. Alors, deuxièmement, il y a d'autres chrétiens, en particulier, c'était le cas de Jean Calvin. Il considère que ce commandement précis ne s'impose pas, contrairement aux nôtres, il ne s'impose pas aux chrétiens. Il cite en fait Colossiens 2, 16 et 17, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Et donc l'idée, ce serait que le sabbat, n'est-ce pas, le repos de sabbat, ça faisait partie des lois cérémonielles juives, et les lois cérémonielles juives étaient des lois qui pointaient à Christ, mais qui, quand Christ est venu, ont perdu leur utilité. Et donc, le sabbat en fait partie, et donc lui, contrairement aux neuf autres commandements, il n'est pas perpétué pour les chrétiens, parce qu'il faisait partie des lois cérémonielles, et les lois cérémonielles ont été dissoutes, et donc on ne devrait pas suivre le sabbat. Troisième raison pour laquelle les chrétiens sont hésitants ou peuvent être même opposés au respect du sabbat, suspicion en tout cas, c'est les altercations entre Jésus et les pharisiens. Parce qu'effectivement, quand on lit ces altercations, on pourrait même aller jusqu'à dire, mais en fait, Jésus a, en fait, il a rejeté le sabbat, carrément. Une lecture en tout cas peut-être rapide pourrait nous amener à cette conclusion. Et c'est vrai que les pharisiens s'opposaient violemment à Jésus parce qu'ils ne respectaient pas une stricte observance du sabbat comme eux en tout cas l'enseignaient, et c'était même une des raisons pour lesquelles ils voulaient sa mort. Donc c'était vraiment important. Il y a plusieurs passages des évangiles qui relatent ces échanges. Il y a les disciples qui mangent du blé dans les champs, il y a Jésus qui guérit un homme à la main sèche, Jésus qui guérit une femme qui était depuis 18 ans infirme à cause d'un démon, etc. On va lire un des passages qui est dans Marc chapitre 3, versets donc 1 à 6. Jésus, donc, Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps infligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main !» Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Voilà, on a donc un passage où Jésus, en quelque sorte, semble rompre volontairement le sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, quatrièmement, il y a un dernier point qui est un petit peu annexe, mais qui n'est pas négligeable, c'est que les Juifs faisaient le sabbat le samedi, et nous, l'équivalent du sabbat, pour les chrétiens, c'est le dimanche. Donc pourquoi il y a cette différence? On en a évoqué l'autre jour avec le frère Laurent, les adventistes qui respectent le sabbat. Est-ce que si nous, on se met à respecter le sabbat, on n'est pas un peu comme eux? Et puis, que penser du dimanche, du samedi? Bon, donc c'est une question. Donc, est-ce que les chrétiens sont soumis à ce repos de sabbat? Est-ce qu'on est soumis à 9 commandements sur les 10? ou est-ce qu'on est soumis à aucun commandement? C'est un peu la question qu'on se pose. Donc, avant de rentrer dans de répondre en détail à cette question, moi, ma réponse, c'est oui, on est soumis à ce commandement au même type que les neuf autres. Donc, on est aussi soumis aux neuf autres en tant que chrétien. Et donc, j'aimerais essayer de vous en convaincre en se basant sur la parole. Tout d'abord, je voudrais parler du thème de la liberté du chrétien et de la loi. Donc, on a vu qu'il y a des gens qui disent les chrétiens sont plus soumis à la loi et donc, c'est pas seulement au commandement de sabbat qu'on n'est pas soumis, c'est à aucun des commandements. Alors, et donc ils invoquent pour ça la liberté en Christ. Il est certain que nous ne sommes pas soumis au commandement comme étant sous le carcan de la loi. En Romains 6, 14, Paul dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Puis en Galates 5, 18, il fait une remarque similaire, il dit « Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Donc être sous la loi, comme l'entendent ces versets, en fait, ça décrit la situation d'un homme non régénéré qui essaie de pratiquer la loi. Et il n'y parvient pas. Et la loi est pour lui un fardeau qu'il est incapable de respecter. Comme l'explique Paul en Romains 8, cet homme est sous le contrôle de la chair, et la pensée de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Mais l'homme régénéré, c'est-à-dire l'homme qui est né de nouveau, il se soumet volontiers à la loi de Dieu. Il n'est plus contraint par la loi comme un carcan extérieur, mais il s'y soumet lui-même à cause du travail de l'esprit en lui. Puis un autre aspect aussi, pour lequel il n'est pas soumis à la loi, c'est qu'il n'est pas soumis à la condamnation de la loi. La loi avait un système de condamnation. Le chrétien n'est pas soumis à cette condamnation puisqu'il est sauvé. Je disais donc que le chrétien se soumet à la loi à cause du travail de l'esprit en lui, et ça on en a une preuve très claire en Ézéchiel 36, 27, qui est un grand passage, magnifique passage sur la nouvelle naissance, et qui dit en particulier ceci, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc c'est comme ça que Dieu voit la nouvelle naissance. Le travail de l'esprit en nous, c'est quelque chose qui va nous amener à respecter la loi, et non pas à la rejeter. En fait, la liberté en Christ, c'est une liberté par rapport au péché. Pas une liberté par rapport à la loi, c'est une liberté par rapport au péché. Christ nous a affranchis du péché, c'est ce qu'il dit en Jean 8. Il nous a affranchis de cette incapacité de l'homme perdu à faire la volonté de Dieu, de cette incapacité de l'homme à respecter la loi, puisque la loi n'est que simplement qu'une expression de la volonté de Dieu. Un frère me parlait du comportement c'était en Angleterre, un comportement de son fils, lorsqu'ils allaient au culte, quand il était ado. Et en fait, il passait devant le terrain de foot le dimanche matin, et le gamin disait « Qu'est-ce que j'aimerais être avec eux ?» Et c'est un peu l'image de la personne qui est sous la loi comme un carcan. C'est-à-dire que pour lui, c'est pesant, mais son cœur n'y est pas. Il va au culte, mais son cœur n'y est pas. Ça, c'est de la loi, effectivement, comme un carcan. Mais c'est pas la position du chrétien. Et je trouve qu'il y a une phrase de John MacArthur que je trouve vraiment excellente pour résumer un peu tout ça. Il dit ceci, « Le salut libère du péché pour obéir à la loi de Dieu. Le salut libère du péché pour obéir à la loi de Dieu. Il ne libère pas de la loi de Dieu pour obéir au péché. Le salut libère du péché pour obéir à la loi de Dieu. Il ne libère pas de la loi de Dieu pour obéir au péché. » Donc là, je pense qu'il y a vraiment, il a très bien saisi c'est pas, être sauvé, c'est pas tout à coup être libéré de la loi de Dieu et pouvoir faire ce qu'on veut. C'est être libéré du péché. Et étant libéré du péché, alors on peut obéir à la loi de Dieu. Et même on le fait avec joie. Et dans ce sens-là, je pense que le chrétien est soumis aux 10 commandements et qui sont une expression de la volonté de Dieu. Et la présence de l'esprit dans le chrétien fait qu'il pratiquera ses commandements avec joie, en fait. Et s'il ne les pratique pas, c'est inquiétant, c'est peut-être le signe qu'il n'est pas régénéré. C'est ce que dit 1 Jean 3, 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et donc, si le quatrième commandement traduit la volonté de Dieu, comme les neuf autres, Le rejet de ce quatrième commandement, c'est-à-dire quelqu'un qui refuserait de le pratiquer, c'est une démarche qui est inquiétante. Ça pourrait être le signe d'un cœur endurci par le péché. Alors, peut-être que la personne ne comprend pas que c'est un commandement de Dieu, et donc il faut étudier, mais si c'est quelque chose que la personne rejette avec force, il y a une question à se poser sur eux. C'est quelque chose d'inquiétant, on ne peut pas prendre ça à la légère en tout cas. Donc voilà, donc j'avais quatre objections, ça c'était la première objection, c'était on n'est pas sous la loi. Donc voilà la réponse que j'apporte et le fait que pour moi, on est sous la loi dans un certain sens et qu'on est également sous la loi du commandement de sabbat. Ensuite, les échanges de Jésus avec les pharisiens sur le sabbat. Alors les pharisiens avaient ajouté à la loi un ensemble de règles qui n'étaient que des traditions d'hommes. On va regarder un passage en Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Donc c'était une deuxième objection qui était qu'il y a ces altercations entre Jésus et les pharisiens, et sur le sabbat, on ne sait pas trop bien ce qu'il faut en dire. Donc Marc chapitre 7, verset 5, « Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Donc Jésus, lui, respectait le sabbat. On le trouve très souvent, on reviendra là-dessus, en train d'enseigner à la synagogue le jour du sabbat. Mais les pharisiens avaient décrété qu'on ne peut pas guérir quelqu'un le jour du sabbat, ou bien qu'on ne peut pas arracher des épis de blé pour en manger, etc. Et ces règles n'étaient pas conformes à l'esprit de la loi du sabbat. C'était des traditions d'hommes. Et en fait, Jésus, il n'est pas en train d'abolir le sabbat, comme quelqu'un pourrait le croire, ou certains le disent. Il est en train de rectifier la fausse interprétation des pharisiens. Des pharisiens, pardon. Pas des parisiens. Encore que. Les parisiens, ils respectent pas le sabbat, ils font les courses ce dimanche. Ah, donc c'est important. Je pense que de réfléchir à ça, c'est que, parce que c'est vrai que c'est pas forcément troublant. En fait, Jésus, il n'est pas en train de dire, oui, en fait, le sabbat... Parce que Jésus, il a dit par ailleurs qu'il n'enlèverait rien de la loi, hein, Matthieu chapitre 5. Hein, même pas un iota. Hein, donc, que toute la loi sera accomplie. Donc, Jésus peut pas être en train de dire, ah, les 9 commandements, c'est bon, mais celui-là, on le laisse tomber. Il n'est pas en train de faire ça. Il est en train de dire aux pharisiens, vous avez rajouté des choses qui n'ont rien à faire dans le sabbat. Ensuite, il y a le sabbat comme loi cérémonielle. Donc, est-ce que le sabbat fait partie des lois cérémonielles, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit en dire? Parce que les lois cérémonielles, on est tous d'accord qu'elles ont été abolies pour nous, et que c'était nombre des choses à venir, mais qu'elles ont été abolies par la venue de Christ. Et ça, c'est clairement dit dans Actes, dans Hébreux, dans Galates. Le verset de Colossiens qu'on a vu également montre que les chrétiens ne sont pas soumis au système cérémoniel, au système sacrificiel, au système alimentaire de la loi juive et à la circoncision. Donc la question est de savoir, est-ce que le sabbat fait partie de ces lois cérémonielles? Question importante. Alors, plusieurs réponses par rapport à ça, à mon avis, qui prouvent le contraire. En fait, le verset de Colossiens 2, et c'est sur quoi d'ailleurs s'appuie Jean Calvin pour dire que le sabbat fait pas partie des lois à préserver, le verset de Colossiens 2, il parle des sabbats au pluriel. Il parle des fêtes, des nouvelles lunes, des sabbats avec un S. Et Lévitique 23 décrit toutes ces fêtes qui parsemaient l'année avec un ensemble de jours, on ne devait faire aucune œuvre servile. Donc ça, c'était les sabbats. Et d'ailleurs, les faux docteurs judaïsants voulaient imposer ces fêtes aux Galates. Puisque Paul dit aux Galates, vous observez les jours, les mois, les temps et les années, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Galates 4, 10. Il n'y avait donc pas un seul sabbat, au singulier, le septième jour, mais tout un ensemble de jours qui portaient le nom de sabbat, qui étaient englobés dans les nouvelles lunes et les fêtes du système cérémoniel. Et il est donc tout à fait possible que Paul, dans ce verset de Colossiens, parle de toutes ces fêtes du Lévitique, mais pas du repos du septième jour. Donc ça, c'est une possibilité. Et un argument qui à mon avis, est encore plus fort, c'est que ce repos de sabbat fait partie des 10 commandements. Il fait partie des 10 commandements. Et les 10 commandements ne sont pas des lois cérémonielles. Les 10 commandements sont des lois morales, pas des lois cérémonielles. Et ce serait surprenant que dans les 10 commandements qui sont des lois morales, soit introduit une loi cérémonielle. On a vu que il y a le commandement de travailler, hein, donc le repos de sabbat, il est inclus dans un commandement sur le travail. Tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. On a vu que le travail, c'est quelque chose qui est éminemment moral. Hein, on a passé 3 messages là-dessus. On a vu que le Nouveau Testament confirme ce commandement de travailler. Et donc, on aurait dans ce commandement de travailler inclus un commandement cérémoniel sur le sabbat. C'est un peu étrange. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, moi, je pense, je veux pouvoir vous le démontrer, qu'il y a quelque chose de moral dans ce repos. En quoi ce repos de sabbat, comme le travail, est un commandement moral? C'est-à-dire une chose qui s'impose à nous sur le plan moral. Mais en fait, Jésus nous impose que l'essence de la morale chrétienne, c'est l'amour. Hein, le fondement de la loi morale chrétienne, c'est l'amour. Jésus l'enseignait, Paul aussi l'enseignait en Romains chapitre 11, si je ne dis pas de bêtises, ou 10. Et voilà ce qu'il y a de moral, c'est que Jésus nous enseigne en fait l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et le commandement de sabbat, le repos de sabbat, c'est une marque de l'amour pour Dieu. En fait, le commandement de sabbat nous demande de consacrer une journée sur sept journées au Seigneur. Et on sait que le temps, c'est quelque chose qui nous coûte très cher. Et que si on veut marquer de l'amour à quelqu'un, si on veut marquer de l'amour à un enfant, par exemple, surtout les enfants, c'est très important pour eux qu'on passe du temps avec eux. Un enfant dont le papa ou la maman ne passent pas de temps avec lui, il sait très bien que son papa ou sa maman ne l'aime pas comme il devrait l'aimer. Et je pense qu'il est vrai aussi pour un époux, pour une épouse, si un époux ou une épouse n'est pas prêt à passer du temps avec son épouse, il y a des doutes sur le fait qu'il l'aime. Et je pense que dans le repos de sabbat, le fait que le Seigneur nous dit « tu vas passer une journée sur 7 pour moi, tu la mets à part, pour moi », il y a une dimension profonde d'amour pour Dieu, de dire « sur mon temps qui est précieux, où j'ai plein de choses à faire, en particulier pour travailler, pour gagner ma vie », etc., ben je vais prendre 1/7 de ça, et ça c'est pour toi. Et je pense donc, là il y a une dimension d'amour très forte dans le repos de sabbat. Mais, maintenant on va aller plus en profondeur et essayer de comprendre quel est le sens du repos de sabbat. Donc on a vu qu'il y a une dimension d'amour, mais on va aller plus en profondeur, et comme on dit, je vous demande de vous accrocher. Parce qu'on va regarder Hébreux chapitre 4, c'est pas le passage le plus facile, mais si on arrive à bien le comprendre, on en tirera beaucoup. On va regarder Hébreux chapitre 3 et chapitre 4. Donc ayez vos Bibles ouvertes à Hébreux 3 et 4, on va en citer quelques versets. Et avant de rentrer dans Hébreux 3 et 4, Hébreux 3 et 4 parle du repos. C'est le thème de ces versets, de ce chapitre-là, on le verra, c'est le repos. Mais dans Exode 20, verset 8, donc le fameux 4e commandement, on a une phrase qui dit « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ». Donc ce repos de sabbat, hein, c'est aussi le repos de l'Éternel. Or, ce concept de repos de l'Éternel, il est développé très, très fortement dans Hébreux, en particulier de 3.6 à Hébreux 4.11. Donc Hébreux 3.6 à Hébreux 4.11. Donc l'Épître aux Hébreux, il est écrit à des Juifs qui semblent être en proie au doute devant la persécution et qui sont tentés de revenir à leur religion hébraïque. Et donc l'auteur de l'Épître, il les exhorte à retenir leur espérance jusqu'à la fin. C'est ce qu'il leur dit en 3.6, donc chapitre 3, verset 6, il leur dit « Sa maison, donc la maison de Christ, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Et afin de les convaincre, donc l'auteur va fonder son raisonnement sur le psaume 95, en particulier le dernier verset, le verset 11, qui est cité ici en Hébreux 3.11, où il dit « Aussi jugerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Donc ceux dont Dieu parle dans ce psaume et qui n'entrèrent pas dans ce repos, ce sont les Israélites qui ont désobéi dans le désert et qui ne sont pas entrés dans son repos à cause de leur incrédulité. Et donc l'argument de l'auteur de l'Hébreu envers ses lecteurs, c'est qu'ils ne doivent pas faire comme eux, pas faire comme les Israélites, et qu'ils doivent croire pour pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Donc ça, je dirais, c'est assez simple. Et cette idée, donc pour les lecteurs, les éditeurs de l'Épître aux Hébreux, c'est vous devez pas faire comme les Israélites, mais vous devez croire, vous devez persévérer jusqu'à la fin. Et si vous faites cela, vous entrerez dans le repos de Dieu. Et ainsi, d'ailleurs, en Hébreux 4.3, il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc il y a vraiment ce lien entre la foi et entrer dans le repos de l'Éternel, finalement. Mais de quel repos s'agit-il ? Donc effectivement, c'est le repos de l'Éternel, puisque dans ce passage, Dieu parle de « mon repos ». Ils n'entreront pas dans « mon repos ». Donc là, on a un passage qui nous parle du repos de l'Éternel, la même expression que celle qui est utilisée dans le commandement, en fait, en Exode 29, le repos de l'Éternel. Alors c'est quoi ce repos de l'Éternel ? Quelle est la nature de ce repos ? De quoi parle-t-il, finalement ? C'est bien gentil de savoir quel est le repos de l'Éternel, mais c'est quoi le repos de l'Éternel ? Alors, dans le contexte de l'Exode, il s'agissait de l'installation dans la terre promise. C'était ça. Dans le contexte de l'Exode, c'était le repos, ça pointait à l'installation dans la terre promise. Et ce repos, il a été acquis par Josué pour la génération suivante. Mais l'auteur de l'Épître dit clairement que c'est pas le repos de Josué dont il parle. Il dit que c'est pas le repos de Josué. Et donc il dit effectivement, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc c'est pas le repos de Josué. Donc l'Épître aux Hébreux, il n'est pas en train de parler du repos de Josué. Et on voit en verset 4.7 qui dit « Dieu fixe de nouveau un autre jour, aujourd'hui en disant dans David, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et donc David est venu longtemps après Josué, et il dit, il conclut en verset 4.9, il dit « Il y a encore un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple d'obéissance. » Donc il y a le repos de sabbat, c'est pas le repos de Josué, c'est autre chose qui existe encore et qui est proposé par la foi aux Hébreux, de l'Épître aux Hébreux. Et puis vous voyez donc les versets 3 et 4 du chapitre 4, les versets 3 et 4 du chapitre 4 où il dit « Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de ses œuvres le septième jour. Donc les œuvres de Dieu sont achevées depuis la création du monde, et en fait il est offert aux hommes d'entrer dans son repos depuis la création du monde. Vous voyez, dans la phrase, elle dit « Ils n'entreront pas dans mon repos », il dit cela, « quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de ses œuvres le septième jour. » En fait, le « quoique » ici, il exprime le fait que, quoique l'origine de ce repos remonte à la création du monde, il est toujours disponible. On peut toujours accéder à ce repos. Mais nous savons que les hommes ont refusé ce repos, Adam a refusé ce repos, il a été chassé du jardin, les Israélites du désert ont refusé le repos par incrédulité, et maintenant l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte les lecteurs de cette épître, et nous aussi, aujourd'hui, à entrer dans le repos de Dieu par la foi, c'est-à-dire le salut éternel. Donc, le repos de sabbat, et c'est ce que je tire de cette démonstration peut-être un peu laborieuse, mais c'est que le repos de sabbat, c'est un avant-goût du repos éternel. Ce repos de sabbat dont il est parlé ici, ce septième jour, en fait, ce repos du septième jour, qui nous est demandé d'observer, c'est clairement relier une image, en fait, du repos éternel. Ça, c'est très important, parce que le repos de sabbat, c'est pas juste une sorte de contrainte légaliste qu'on impose aux chrétiens. On verra tout ce que c'est encore, mais c'est une image du repos éternel. Ça, c'est vraiment important de se dire que, et de garder ça à l'esprit, quand on prend le repos de sabbat le dimanche, en fait, on a un avant-goût. Ça nous parle, c'est une image, c'est un symbole du repos qui nous attend dans l'éternité. Et ce concept-là, je pense que vous l'avez déjà entendu, il me semble qu'on en a parlé probablement dimanche, c'est effectivement fondé sur en particulier sur ce passage. Alors, maintenant, le passage du samedi au dimanche. Pourquoi les chrétiens donc se reposent le samedi, prennent le sabbat le samedi et pas le dimanche. Parce que le Nouveau Testament montre clairement que l'Église primitive avait mis à part le dimanche pour le culte, et pas le samedi. On voit ça dans 1 Corinthiens, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. 1 Corinthiens 16, 2. On l'a cité dimanche dernier, ça. Ensuite, on le voit encore plus clairement dans les Actes, à Troas, la résurrection du jeune homme Eutychus se passe dans le contexte d'un culte du premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc on voit que un des aspects importants du culte, le fait de rompre le pain, c'était le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Chez les Français, c'est le lundi, c'est un peu compliqué. Mais les Anglo-Saxons, quand ils parlent le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc c'est vrai que ça surprend un petit peu. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. La plupart des apparitions de Jésus lors de la résurrection, c'était pas un samedi. C'était un dimanche. En particulier dans Jean 20, l'apparition à Thomas, elle se fait une semaine après la résurrection, et donc le dimanche. Donc il y a bien sûr une logique à ce que les chrétiens se réunissent le dimanche pour célébrer la résurrection de Jésus, puisque Jésus est ressuscité un dimanche, mais ça ne résout pas notre problème du sabbat, qui était le samedi. Parce que le sabbat, c'était le repos de l'Éternel, hein, après son œuvre de création, et donc le samedi. Donc comment on réconcilie les deux? Alors il y a une réponse intéressante à cette question. Dans le cadre du sabbat, Dieu nous invite à entrer dans son repos. C'est dans son repos, le repos de l'Éternel. Ce n'est pas notre repos, c'est le repos acquis par Dieu pour nous. Et Dieu est entré dans ce repos le septième jour de son œuvre de création. Mais Jésus, lui, il est entré dans son repos, dans le repos de son œuvre de rédemption, non pas un samedi, mais un dimanche. Et si vous regardez, si vous avez encore Hébreux 4 ouvert, vous voyez cette phrase au verset 10. Cette phrase au verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Car celui qui rentre, qui est entré dans son, car celui qui est entré dans son repos se repose lui aussi de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes. Et il y a une interprétation qui est peut-être pas nécessairement une interprétation générale, mais une interprétation intéressante qui dit que le celui, c'est pas n'importe quel homme, mais c'est Jésus lui-même. Il n'est pas en train de parler du repos de nos œuvres, mais il est en train de parler du repos de Christ. Et que c'est Christ qui se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et je pense qu'il y a un argument fort en faveur de cette interprétation, c'est que on n'est pas invité à nous reposer de nos œuvres, mais à entrer dans le repos acquis pour nous par Christ, par ses œuvres. Ce qui est important, ce n'est pas de nos œuvres, mais c'est les siennes. Ce sont ses œuvres qui nous sauvent et pas les nôtres. Et donc, effectivement, ce verset, il tendrait à dire que, comme Dieu est entré dans son repos le septième jour de la création, Christ lui est entré dans son repos et se repose de ses œuvres, et là, c'est ses œuvres de rédemption. Et c'est pour ça qu'il a ressuscité un dimanche. Donc, il y a là, effectivement, je pense, on voit effectivement que la raison pour laquelle on se réunit le dimanche, c'est que les chrétiens, ça c'est un fait établi dès les premiers temps, dès même la résurrection de Jésus, se réunissaient non pas le samedi, mais le dimanche, et qu'il y a un sens spirituel à cela, c'est que Christ est entré. Donc le repos de sabbat, c'est quelque chose qui commémore le repos de Dieu. Dieu s'est reposé de la création le samedi, Christ s'est reposé de ses œuvres de rédemption le dimanche. Et tout le fait qu'on se reposerait donc le dimanche, et que notre sabbat chrétien à nous, notre sabbat à nous, ce serait le dimanche. Voilà. Je dirais que j'ai fini le passage ardu. J'espère. On a passé le haut de la colline, là on va redescendre un petit peu. Maintenant, et on arrive à la fin du message, qu'est-ce qu'on doit faire de ce repos ? Que nous est-il permis de faire ou de ne pas faire ? Alors, il faut d'abord se rappeler que c'est vraiment important ça, que c'est un repos. Et c'est quelque chose qui est béni par Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Donc c'est pas quelque chose, il est dit en Exode 20, 11, que Dieu a béni le jour de repos. Donc le repos de sabbat ne doit pas être un fardeau sur les épaules des hommes. Je parle en particulier pour les plus jeunes. Mais c'est une bénédiction pour eux. Il ne faut pas qu'on vive le sabbat comme quelque chose de pesant. On va devoir écouter le pasteur pendant une heure, l'adoration pendant une heure. Vivement qu'on puisse rentrer à la maison. C'est pas comme ça qu'on doit voir le sabbat. Le sabbat, c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui est béni par Dieu. Et Jésus nous a dit que le sabbat a été fait pour les hommes et pas les hommes pour le sabbat. Marc 2, 27. Donc ceux qui rejetteraient le sabbat comme une contrainte légaliste pesante se trompent parce qu'ils rejetteraient une bénédiction de Dieu. C'est important que Dieu dise que Dieu a béni ce jour. Par ailleurs, c'est certainement pas la bonne façon de répondre, certainement pas celle des pharisiens. Les pharisiens, leur réponse, elle était contraire à la vision biblique du repos, parce que c'est intéressant de noter que les pharisiens, eux, pour eux, le repos de sabbat, c'était une totale oisiveté. On ne faisait plus rien. Ils n'avaient même pas le droit de marcher. Tout était extrêmement contrôlé. Et en fait, ils étaient dans une sorte d'oisiveté totale qui s'imposait à eux-mêmes. Et on a vu que l'oisiveté, c'est pas une chose que la Bible recommande, au contraire, elle les condamne. Alors c'est vrai que le commandement dit qu'on ne doit pas travailler, et c'est aussi pour notre bien. J'ai parlé tout à l'heure de Jean Calvin qui ne considérait pas le sabbat comme s'imposant aux chrétiens en tant que loi, mais c'est intéressant malgré ça de voir qu'il considérait que c'était une bonne chose au plan pratique, et il a fait des remarques intéressantes. Et en voici une première, il dit ceci. Le législateur céleste a voulu accorder un jour de repos aux serviteurs et aux autres travailleurs salariés afin qu'ils aient un peu de relâche dans leur labeur. Donc pour lui, il dit, une des raisons pour lesquelles ça fait partie de la loi, c'est que Dieu a voulu donner un jour de repos pour les travailleurs, pour qu'ils puissent se reposer. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, à l'époque de la Renaissance et du Moyen-Âge, il n'y avait pas les congés payés, il n'y avait pas tout ça, les gens travaillaient tout le temps. Et donc, il y a un jour de repos qui est donné par Dieu. Et donc, comme on le disait l'autre jour, la permission de travailler le dimanche en France, c'est tout ce qu'ils ont fait dans les 15-20 dernières années pour permettre le travail le dimanche en France, c'est pas conforme à la vision de Dieu sur le sabbat, en tant que bénédiction des hommes, et même socialement, on voit que la Bible est bien plus avancée socialement que les hommes d'aujourd'hui, parce que la Bible, elle a prévu que le samedi, tout le monde puisse se reposer. Ensuite, il y a autre chose qui est intéressant, toujours en prenant quelques morceaux du commandement. Le commandement dit que tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Et donc on voit que l'absence de travail, en fait, elle concerne pas seulement le croyant, mais elle concerne aussi son environnement, sa famille, ses serviteurs. Aujourd'hui, on n'a pas des serviteurs, mais on a bien des gens qui travaillent pour nous, au travers de leur vocation. C'est drôle. Timothée faisait la remarque, on parlait de ça dimanche, il disait qu'en fait aux États-Unis, beaucoup de gens ils vont à l'église le dimanche matin, puis après ils vont déjeuner au restaurant. Donc en fait, eux, ils respectent le sabbat, mais il faut que les autres bossent pour eux et qu'ils leur servent à manger. Et c'est vraiment cynique et hypocrite, en quelque sorte. Hein. Nous, on se dit, nous, c'est le sabbat, on respecte le repos du dimanche, on ne travaille pas, mais en revanche, on est bien content qu'il y ait d'autres qui travaillent pour nous. Alors, les commandements de Dieu ne sont pas seulement pour les chrétiens, ils sont pour tous les hommes. Maintenant, les hommes ne les respectent pas, je dirais, entre guillemets, c'est leur problème, mais les commandements sont aussi pour eux. Les commandements de Dieu, ils sont pour le bien de l'ensemble de l'humanité. Et je pense que on devrait, nous, en tant que chrétiens, sérieusement réfléchir avant de faire travailler les autres le dimanche. Parce que finalement, si tous les chrétiens se mettait à dire, ben non, moi le dimanche je travaille pas, je veux pas imposer aux autres de travailler, je veux pas les faire travailler pour moi, ben je pense que ça pourrait changer pas mal de choses. Alors on n'est pas très nombreux en France, mais c'est vrai que encore pour parler aux États-Unis, il y a une chaîne de restauration rapide, qui s'appelle Chick-fil-A, qui a été fondée par des chrétiens, et eux, clairement, c'est écrit sur tous leurs panneaux de la publicité, fermé le dimanche, parce que pour eux c'est important. Alors autre chose aussi, c'est qu'on doit sanctifier ce jour. Il est dit donc que Dieu a sanctifié ce jour. Ça veut dire que Dieu l'a mis à part. Donc les choses sanctifiées, elles sont entièrement mises à part pour Dieu. Les ustensiles, les animaux, les hommes qui étaient consacrés exclusivement à Dieu. Donc c'est la journée qui est consacrée. C'est la totalité de la journée qui est sanctifiée, c'est pas juste le matin. Hein. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit aussi, c'est que c'est une journée entièrement sanctifiée pour Dieu. Alors maintenant, on peut se poser la question, terminerai là-dessus. Quelles activités on peut pratiquer en ce jour? Quelles activités doit-on pratiquer? Alors, on a quelques indications dans la parole. Je ne veux pas faire une liste de règles, mais je pense des choses qui amènent à réfléchir. Les chrétiens des temps passés avaient identifié trois types d'œuvres compatibles avec ce repos. Ils disaient des œuvres de piété, des œuvres de nécessité, des œuvres de miséricorde. Donc les œuvres de piété, bah, effectivement, c'est le culte, en fait. Et Jésus, lui, se rendait, il respectait le sabbat. Donc on a un passage où il dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, Luc 4, 16. Donc Jésus, c'était selon sa coutume. Jésus, il avait la coutume d'être assidu au culte le jour de sabbat. Donc les œuvres de piété, c'est tout ce qui tourne autour du culte. Et outre ce passage, on voit plein de passages, Marc 1, 21, Marc 6, 2, Luc 4, 31, Luc 6, 6, Luc 13, 10, où on voit que Jésus enseigne dans la synagogue le jour du sabbat. On a vu en acte 27 que l'Église se réunissait le dimanche pour rompre le pain et que Paul y enseignait. Donc, il y a une dimension de rompre le pain, il y a une dimension d'enseignement, lecture de la parole, adoration. Et c'est intéressant de voir que en fait, que Dieu, lorsqu'il s'est reposé le septième jour, il ne s'est pas affalé sur son canapé, mais il semble plutôt qu'il a fait comme ferait un artiste qui prend du recul par rapport à sa création, parce qu'il est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Donc il y a une contemplation de Dieu ce septième jour. Et pour nous, c'est pareil, il y a l'idée dans le sabbat de l'adoration et de l'adoration. Donc l'enseignement, on l'a vu, la fraction du pain et l'adoration. Le fait de contempler, comme Dieu lui a contemplé la création, le septième jour, nous, on doit contempler son œuvre, contempler l'œuvre de Dieu. C'est bien ce qu'on fait, c'est bien ce qu'on doit faire le dimanche, n'est-ce pas, à l'Église. L'enseignement et l'adoration, c'est ce que nous pratiquons, et la fraction du pain. Je cite encore Calvin aussi là-dessus, je trouve que la phrase est intéressante, il dit « Le législateur céleste a voulu qu'il y ait un jour fixe pour que le peuple s'assemble pour écouter la loi et accomplir ses cérémonies, jour qu'il consacrerait à considérer les œuvres de Dieu afin d'être incité à mieux le servir. » Donc c'est un jour où on doit considérer les œuvres de Dieu afin d'être incité à mieux le servir. J'ai parlé des œuvres de nécessité, on a évoqué le sujet dimanche dernier de qu'en est-il des personnes ou des activités qui sont indispensables au fonctionnement de la société, l'électricité, le gaz, l'eau, les hôpitaux, certains transports, etc. On a vu que les pharisiens voulaient empêcher les disciples d'arracher un épi pour manger. On a vu qu'ils reprochaient à Jésus de faire des guérisons le jour du sabbat, mais Jésus leur a fait remarquer qu'ils étaient hypocrites, parce qu'ils étaient prêts à aller libérer leur mouton qui serait tombé dans un trou, ou leur âne pour l'amener à boire à l'abreuvoir, ou de venir en aide à leur fils, ou même une simple brebis si elle était tombée dans un puits. Donc en fait, il est normal de faire activité le repos de sabbat si elle est nécessaire. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur américain que je trouvais intéressant, donc sur ce sujet-là. Lorsqu'il faisait ses études, pour gagner un peu d'argent, il travaillait dans un service comptable, dans une entreprise. Et puis, un jour, son chef lui dit, il faut que tu viennes travailler dimanche. Il savait qu'il était chrétien. Il faut absolument que tu viennes travailler dimanche. Et cet homme, donc, qui est un très grand théologien, mais donc, à l'époque, était un jeune étudiant, lui a dit, si c'est absolument nécessaire, je viendrai. Mais est-ce que c'est absolument nécessaire? Donc, il y a une question de nécessité. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment nécessaire? Absolument indispensable. Alors, effectivement, c'est indispensable qu'il y ait de l'électricité. Sinon, le micro ne marcherait pas, on n'aurait pas de lumière. C'est indispensable qu'on ait du chauffage. Donc, il faut se poser cette question, est-ce que c'est absolument nécessaire? C'est absolument nécessaire qu'on ait des soins également. Mais je pense qu'il faut bien se... Je pense que c'est un critère intéressant pour nous faire réfléchir à ce qu'on peut faire le jour de sabbat. Mais c'est pas parce qu'on a besoin de pompiers, qu'on a besoin d'électricité, qu'il faut sauter là-dessus et dire aussi on peut aller faire du shopping le dimanche. Je pense que c'est toujours la même question. Quand il y a quelque chose on se pose la question, est-ce qu'on peut faire ça? Les gens vont toujours prendre un cas extrême, puis ensuite en faire une généralité. Non, enfin, il y a effectivement des choses, et il faut utiliser notre sagesse, renouvelée par l'esprit. Il y aura du bon sens. Mais c'est pas parce que, effectivement, il faut qu'il y ait l'électricité le dimanche, que ça veut dire que je peux aller faire du shopping, manger au restaurant, Je pense que ça, c'est vraiment le genre de réflexion qu'on doit avoir. Timothée encore nous disait, on parlait avec Albert, il disait qu'aux États-Unis, ils ont tellement, dans certaines églises, ils sont tellement laissés aller aux désirs du monde qu'ils font leur culte le jeudi soir. Parce que comme ça, les gens peuvent partir le vendredi soir en week-end. C'est quand même extraordinaire. Donc, vous voyez la distance qu'il y a entre, il y a besoin d'avoir des infirmières et des médecins le dimanche à l'hôpital, et le fait que tout le monde, de toute façon, va au culte le jeudi parce que tout le monde part en week-end. Il y a quand même une grande différence. Enfin, le troisième point que je citais, les œuvres de miséricorde. Et donc Jésus dit ceci, il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Jésus, il a guéri beaucoup de personnes les jours de sabbat. Et donc pour nous, ça peut vouloir dire visiter des gens qui sont malades, évangéliser, donner de son temps, de sa substance. Pour les autres, dans un esprit de grâce. Je pense aussi que ça peut être passer du temps en famille. Je pense que passer du temps avec des parents qui sont âgés ou passer simplement du temps en famille parce qu'il y a beaucoup de bonheur à passer du temps en famille, je pense que c'est aussi des choses qui sont bonnes. Donc je vais m'arrêter là parce que je veux pas dresser une liste de choses. Je pense que c'est important qu'il y ait un esprit du sabbat et que notre façon de pratiquer le sabbat soit inspirée par l'esprit. On doit se rappeler surtout, d'abord avant tout, que le sabbat, c'est quelque chose où on montre notre amour pour Dieu en lui consacrant du temps. Est-ce qu'on est capable de lui donner un jour sur 7 pour lui qui a donné sa vie pour nous et qui nous a créés? Ou est-ce qu'on est trop occupé? Et je pense que c'est la même discussion sur la dîme. Je pense que c'est la même discussion sur la dîme où les gens disent « Ouais, mais la dîme, c'était la loi, mais nous, on n'est plus soumis à la loi. » Moi, je disais l'autre jour, en rigolant, je disais « Oui, on n'est plus soumis à la loi. En fait, on devrait donner beaucoup plus que la dîme, si on n'est pas soumis à la loi. Pourquoi se limiter à 10% après tout? On n'est qu'à donner 20 ou 30%. » Donc, on doit le faire selon son cœur, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a toujours cette idée de « Ah, la loi, elle me contraint et je veux pouvoir faire ce que je veux. » Non, je pense qu'il faut se poser la question de comment je me comporte par amour pour Dieu. Et le sabbat, il est, on va se rappeler aussi que le sabbat, il a été fait pour l'homme. Que c'est un jour béni par Dieu. Que ça doit pas être une contrainte, quelque chose de pesant. Si on en fait quelque chose de pesant, si on en fait une contrainte, il y a un problème. Et je cite encore pour terminer une troisième raison pour le sabbat selon Jean Calvin. Il dit ceci, le législateur céleste a voulu, d'abord par le repos du septième jour, présenter une image du repos spirituel. On a vu ça, le repos spirituel. Le repos le repos de sabbat, c'est une image du repos éternel. Les croyants doivent se reposer de leurs propres œuvres afin de laisser Dieu travailler en eux. Les croyants doivent se reposer de leurs propres œuvres afin de laisser Dieu travailler en eux. C'est vrai que c'est aussi une occasion de sortir de l'excitation de la semaine de court dans tous les sens. Là, on a une journée complète qui est passée pour Dieu. Et là, c'est pas nous qui travaillons, c'est Dieu qui travaille en nous. Voilà. J'en ai terminé. Et je recite à nouveau cette phrase d'Ésaïe 58:13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, donc vous voyez, on doit faire du sabbat nos délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Donc c'est Ésaïe 58, 13 et 14. Prions. Seigneur, nous te remercions que tu es, dans ton immense sagesse, prévu un jour où nous puissions nous reposer de nos œuvres, de notre travail, car nous en avons tant besoin. Mais également un jour que tu as béni pour nous, un jour que tu as mis à part pour que nous soyons en relation avec toi, non pas dans la crainte, non pas sous un carcan, mais dans la joie. Seigneur, trop souvent, nous vivons le sabbat comme un carcan, comme une contrainte. Seigneur, que ton esprit travaille en nous, afin que nous le vivions comme un jour de joie, un jour béni, un jour où nous sommes en relation avec toi, et un avant-goût, Seigneur, du repos éternel. Seigneur, nous avons besoin que ton esprit nous enseigne dans nos cœurs, car nous sommes tellement prompts par la chair à transformer toute chose en des œuvres légalistes. Puisses-tu, Seigneur, nous enseigner par l'Esprit, car nous en avons tant besoin, tu le sais. Nous avons besoin que ton Esprit nous enseigne. Et nous frappons à la porte, comme nous a dit de le faire, avec importunité, te demandant du pain, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, par ton Esprit, enseigne-nous, car nous en avons tant besoin. Je te prie, Seigneur, en saint nom de ton Fils. Amen.